le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Millions de proches aidants en France soutiennent régulièrement, voire quotidiennement, un parent âgé, un enfant handicapé ou un proche. Qui sont-ils? Comment vivent-ils au quotidien? Quelles ont été leurs expériences lors de l'épidémie de la Covid-19 et depuis? Comment les aider? Pour en débattre, nous avons invité Hubert Stéphan, président du conseil d'orientation de l'EREB, l'espace de réflexion éthique de Bretagne, Daniel Emily, référent UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeure des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS à l'UBO. Muriel Rebourg, juriste, professeur des universités, membre du LabLex, laboratoire de droit de l'UBO. Dans les deux premiers numéros de cette série du Lab U consacrée aux aidants, nous avons décrit les aidants et décrit les personnes qu'ils aident, puis nous nous sommes focalisés sur leurs difficultés. Dans cette dernière émission consacrée aux aidants, nous aborderons la question de leur soutien en explorant plus particulièrement l'articulation des solidarités publiques et des solidarités familiales. Faut-il accorder des droits particuliers aux aidants, les soutenir financièrement ou mettre en place des formations spécifiques? Françoise Leborgne-Huguin ouvre le débat.
Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de... Il n'y a pas que le mot aidant qui est arrivé dans le paysage. Il y a quand même beaucoup de services. Effectivement, monsieur insiste sur l'accueil de jour. Il y a beaucoup de nouveaux... Alors l'accueil de jour, on voit bien, c'est quand même assez concret. On voit ce qui s'y passe. Mais on voit bien qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions de coordonnateurs, gestionnaires. Alors parfois, on rajoute même deux cas, bon, ce qui est quand même un peu compliqué comme terminologie. On voit bien qu'il y a des lieux de... Il y a beaucoup de lieux, je trouve, de bilan, d'évaluation gériatrique, psychique, etc. On a en France une certaine appétence, enfin, on aime beaucoup créer des lieux pour faire le point, pour voilà. Mais peut-être effectivement que ce qui est attendu des différents acteurs, c'est des moments pour suspendre, en fait, et pouvoir suspendre ça sans avoir besoin de l'envisager trois mois avant. C'est-à-dire pouvoir systématiser le fait d'aller à l'accueil de jour. Et on voit bien, par exemple, la démarche des assistants de soins gérontologiques qui est de pouvoir avoir 10 séances ou 12 séances d'accompagnement, mais renouvelées une fois par an, ou alors de temps en temps, ça change les dispositions. C'est-à-dire d'avoir quelque chose de cyclique, mais qui soit continu, qui donne un horizon où on puisse se relever de cette responsabilité concrète que de devoir mettre en scène son propre corps et d'être toujours dans l'attente du coup de téléphone, de l'élément un peu imprévu. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de l'ordre de l'urgence de ces situations, mais qui devrait être systématisée, routinisée. Ben, vous en faites. On sait que la situation est compliquée tous les X jours de la semaine. Voilà, avoir quelque chose de plus systématique qui enlève ou qui modère un peu la pression à faire du soutien. Et alors, effectivement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de dispositifs, de sigles qui arrivent dans le champ, que ces sigles, quand même, ils sont très difficiles à saisir. Qu'est-ce qu'il y a derrière un dispositif d'appui? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle information s'échange? Qu'est-ce que je peux attendre en tant que conjoint, en tant qu'enfant, en tant que parent, de tel ou tel lieu? Le paysage est quand même assez... bon, mais c'est aussi très français, assez segmenté, assez sédimenté. Il y a des mots qui disparaissent. Hein, la Maya, qui était la maison d'appui, et la concertation qui a disparu, qui s'habille de nouveaux termes. Enfin, même en fréquentant personnellement et professionnellement tout cet univers aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de codes. Il y a un lexique qui est imposé par aussi l'action publique, par les professionnels, dont on ne mesure pas qu'il a des effets de non-compétence, où il écrase un peu les proches soutiens, et ça, je pense que c'est un peu dommage. Et puis, surtout, il y a la question de... Donc Muriel l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a une vraie question quand même de savoir à qui il revient de prendre soin d'accompagner ces individus dans la longue durée, est-ce qu'on peut se dire ou pas que la famille est faite pour ça? Comme on a dit au moment de la Covid, est-ce que les parents sont faits pour faire l'école à la maison? Ben finalement, est-ce que nos sociétés sont faites pour que, avec un horizon de longévité si loin et avec des pathologies évolutives aussi importantes qui nous affectent, est-ce que ça veut dire que tous, on doit se dire qu'on va peser sur nos proches pendant aussi longtemps et qu'on va peut-être effectivement mettre en difficulté les liens de famille? Les liens de famille ne sont peut-être pas faits pour répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui. Ils ne sont pas faits pour la petite enfance, ils ne sont peut-être pas davantage faits pour le handicap, ni pour la maladie de longue durée, ni pour cet horizon de longue vie. Donc moi, je pense qu'il y a là vraiment à repenser quand même la manière dont les élus, les collectivités, les institutions regardent cette agitation ou cet engagement hyper important des entourages et se pose un peu des questions, parce qu'on voit bien que sinon on est dans une société qui a du mal à penser quand même le handicap, la limitation, et qui a du mal à penser le fait qu'on soit des êtres qui ne sommes pas pour toujours, des êtres en pleine capacité, des êtres qui répondent à cette figure d'un individu responsable. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que sinon on voit bien que un certain nombre d'entre nous pouvons être aussi très inquiets sur la suite de nos parcours. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il vaut mieux qu'on reste pesé là, sur des gens, on ne sait pas quand, pour combien d'années et pour combien de mois, ou est-ce qu'on peut penser d'autres manières? Donc c'est vrai que c'est quand même une réflexion sur l'habitat, sur les quartiers, sur les milieux de vie. En quoi sont-ils aujourd'hui, la vie en ménage, telle que les ménages sont organisés aujourd'hui, est-ce que c'est un horizon pensable, ou est-ce qu'il ne faut pas inventer d'autres types de manières d'échanger, de manières de se rencontrer, de manière d'échanger des services, qui ne soient pas que le voisinage non plus, parce qu'on voit bien que c'est compliqué ce voisinage quand on est toujours du même côté, quand on est toujours avec des besoins de services et qu'on demande toujours, même si pendant longtemps on a prodigué du soutien, ce n'est pas sûr qu'il y ait de la réciprocité si durable que ça. Donc moi, je pense que c'est un appel à une réflexion sur des modes de vie quotidiens qui soient organisés un peu autrement, mais de manière ordinaire. Alors, il y a eu des initiatives, le département Strasbourg, je ne sais jamais si c'est haut ou Bas-Rhin, ça doit être en bas, puisque c'est le Bas-Rhin. Voilà. Donc, c'est le Bas-Rhin. Il y a eu des tentatives de mutualiser, par exemple, des allocations. Alors, ça peut être l'APA, ça peut être la prestation de compensation du handicap, et de réunir deux ou trois personnes avec des entourages, avec des professionnels, par exemple, dans l'appart le plus grand ou la maison la plus grande du quartier. Tout ça, ça a été tester, imaginer, ça donnait satisfaction et ça n'a pas résisté à l'aspect juridique et financier des règles départementales, des financeurs, en particulier sur l'APA, etc. Donc il y a quand même une vraie, je ne sais pas comment dire, mais un changement de représentation sur ces temps de la vie qui, s'il ne vient pas et si ce n'est pas pensé comme l'ordinaire de ce que c'est que les parcours de vie et de certains moments des parcours de vie pour tout le monde, ne pénétrera pas et restera toujours vu comme une charge. Et donc, effectivement, on voit bien que l'indemnisation, quand même, elle est très modeste sur ce congé de proche aidant, et que plus on utilise le mot, et on a l'impression que c'est comme un ovni qu'on n'attrape pas, quoi. Aller chercher le répit à Brest, il est où? Il y a combien d'hébergements temporaires sur la région? Ils sont accessibles comment? Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment quand même à ne pas se laisser piéger par les mots. Les réalités quotidiennes, les expériences, les faits sociaux nous montrent que cette question, elle n'est pas prise en compte à la hauteur de ce qu'on va rencontrer du fait du vieillissement des baby-boomers, du fait qu'on va tous vivre avec des temps de vie avec des limitations plus ou moins réversibles, avec des pathologies de longue durée aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on est définitivement, à devoir sentir qu'on est un poids pour les autres et du coup presque à s'effacer de soi-même, parce que je pense que ça va jusque-là. Enfin là, on a beaucoup parlé des aidants, mais si on regardait du côté des destinataires, eux-mêmes agissent, eux-mêmes disent quelque chose de ce qui leur arrive. Donc,
Oui, oui, vous voulez...
Oui, je voulais revenir effectivement pour compléter ce qui a été dit précédemment. La première chose que demandent les aidants, quand ils sont reconnus aidants, c'est la reconnaissance. La reconnaissance par les institutions. Quand vous remplissez un dossier APA ou un dossier PCH, on demande à la personne de rédiger un projet de vie. Bon, on peut discuter longtemps sur l'intérêt d'un projet de vie qui change tous les jours, mais on ne demande jamais le projet de vie de l'aidant. Et si par hasard, certains aidants militants mettent leur projet de vie avec, ça perturbe complètement le service. Et il suffit simplement de demander au service, quand l'aidant n'est pas là, on fait comment? Ce que vous me proposez, il correspond à quoi? Et bien là, on a un blocage. Même devant les tribunaux, on a un blocage. On voit bien que les mesures qui sont prévues ne sont pas adaptables à la réalité. Et je profite aussi pour, s'il y a des gens qui ont des dossiers à faire un jour, quand on vous demande si la personne est capable de manger seule, par exemple, ne répondez jamais oui. Répondez non, mais avec une aide, oui. Parce que tous ceux qui regardent les dossiers, ils vont simplement dire oui, mais on ne regarde pas ce qu'il y a à la suite. Si vous répondez non, ils vont regarder ce qu'il y a derrière. Vous voyez que c'est un détail, mais ça a son importance.
Là, on arrive sur la formation, en fait, vous donnez les conseils. Oui, allez-y. Oui,
oui non, mais je prends un exemple au hasard. Se déplace tout seul. Combien de mètres peut la personne peut marcher seule? Si vous êtes au-delà de 50 mètres, vous n'avez pas le droit au macaron GIC, par exemple. Mais ça, les médecins ne le savent pas non plus. Donc, quand ils remplissent le dossier, généralement, ils le font en accord avec la personne et éventuellement les proches quand il y a besoin. Mais il y a besoin aussi d'une formation des professionnels sur les conséquences de ce qu'ils mettent dans les dossiers. Parce que c'est très important, le dossier médical.
Ouais, juste une toute petite parenthèse pour rebondir sur ce que disait Mme Guillou. Je vais me renvoyer une question qu'un psychiatre m'a posée récemment. Pourquoi acceptez-vous l'inacceptable? Et bien parce que j'ai pas d'autre solution. Tout simemplement.
Moi, je voudrais développer sur la formation, parce que je sais que vous avez fait des formations pour les aidants. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent intervenir. Formation représentant des usagers, oui.
Par contre, moi, je fais des formations.
Peut-on former les aidants? Y a-t-il des besoins de formation chez les aidants?
À l'UNAFAM, nous
et dans ce cas-là, former à quoi?
À l'UNAFAM, nous proposons des formations pour les aidants.
D'accord. Quel type, alors?
Alors, deux types. Enfin, le premier, c'est une journée d'information plutôt que formation sur les troubles psychiques. On explique aux participants ce que sont les maladies psychiques, les troubles que ça génère et le handicap qui s'ensuit en général. Et ensuite, on donne aux personnes tout un panel de contacts au niveau sanitaire, médico-social, social, juridique, auxquels elles peuvent s'adresser avec les adresses des téléphones, etc. Parce que très souvent, les gens sont complètement ignorants de tout ce qui tourne autour de la maladie psychique. Et ensuite, on propose aussi, et là c'est une formation par contre, qui est assurée. Alors la première dont je parlais est assurée par une psychologue clinicienne et une bénévole de l'UNAFAM. Et la deuxième est assurée par deux bénévoles de l'UNAFAM. C'est l'UNAFAM qui forme les bénévoles pour ces formations. C'est une formation qui dure sur trois journées et qui permet aux personnes de faire face à la maladie psychique dans la durée. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, aidant, je fais de ce que la maladie m'a apporté, qu'est-ce que je connais de la maladie, comment je vis après ça. Donc c'est un petit peu un retour sur tout ce qui a été vécu, mais pour permettre de faire des projets dans l'avenir sur sa vie personnelle. Puisqu'on sait très bien que les familles s'oublient très souvent dans le parcours.
D'accord. Et puis, il y a également les groupes de parole. mis en place. Alors, c'est pas oui. vraiment de la formation,
c'est pas de la formation, mais,
mais c'est un lieu important pour la prise de parole et, mmh. Et le dialogue avec d'autres aussi.
Tout à fait.
Proches aidants. Mmh.
Là, on arrive presque aux questions du public. Je voudrais finir sur. Tout à l'heure, Françoise a élargi. Hein, vous avez imaginé. T'as dit, faut imaginer d'autres formes de solidarité, en gros. Ça m'a fait penser aux communs. Là. Il y a une bonne thèse là-bas aussi sur les communs, l'habitat commun. Je voudrais élargir la question encore plus. Pourquoi l'État, pourquoi les collectivités locales doivent aider les aidants? Est-ce que c'est parce que il y a un enjeu économique? On en parle, on avance des milliards. Bon. Est-ce que c'est parce que il y a comment c'est une question de solidarité, tout simplement, nationale. Sinon, on n'imagine pas un pays sans solidarité. Est-ce que c'est des questions éthiques et politiques? Voilà, je pose la question à peut-être... peut-être les juristes ont réfléchi là-dessus, sur quel est le lien entre aider les aidants et constituer un peuple, quoi, par exemple, ou constituer une collectivité.
Je crois que c'est un peu tout à la fois. Enfin, tout ce que vous avez dit, il y a à la fois un enjeu économique
oui, j'imagine, ouais.
évident, puisque tout ce que les aidants, les proches aidants font, évite d'avoir recours à des professionnels. Donc, évidemment, le coût n'est pas le même. Pour l'État, c'est un enjeu économique important. On a vu aussi que, bon, dans ce qui se profile, et peut-être prochainement une loi, une grande loi autonomie qui nous est promise depuis... très très longtemps, et la création d'un risque d'une cinquième branche de la sécurité sociale qui a été actée quand même en août dernier, sauf que ce risque, finalement, ce nouveau risque de la perte d'autonomie, quel que soit l'âge, aujourd'hui, même si on a acté l'idée d'une création de la cinquième branche de la sécurité sociale, on n'a pas encore déterminé derrière les financements et comment allait être vraiment financé et coordonné tout ça, donc on est pas encore tout à fait au projet de loi et à l'adoption, à mon avis. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un pas par rapport à ce qui, depuis 20 ans, se discute et se retourne dans tous les sens. Bon, on a fait quand même un petit pas en avant, on va dire. Ça montre bien l'idée de solidarité collective, je dirais, parce que derrière, la question de savoir qui va financer, c'est quand même là que se jouent aussi les choses, à mon sens. Est-ce que c'est une cotisation des salariés? Est-ce que c'est des fonds qui viennent de la branche famille? Est-ce que c'est une journée solidarité, etc. Bon, on voit bien que l'État est bien obligé quand même de mettre en place une solidarité collective. Mais moi, ce qui m'interroge davantage maintenant, c'est comment tout ça va s'articuler justement avec les solidarités familiales, puisque j'entends aussi dire que on va peut-être aussi réfléchir à ce qui se fait sur les recours des obligés alimentaires, sur les recours sur succession, sur la prise en compte du patrimoine des individus, plus que des revenus. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, en réalité, ici, dans les mois à venir, on va dire, puisque l'objectif, c'est quand même de diminuer le reste à charge pour les individus, enfin, pour les personnes. Mais il y a aussi une question d'équité dans la société, évidemment, en fonction des ressources et des patrimoines des uns. On n'aura pas tous le même droit à cette prestation, enfin, de perte d'autonomie. Bon, moi, je pense que l'enjeu, il est beaucoup ici. Il est aussi, vous n'en avez pas parlé, de la convergence entre le handicap et les personnes âgées, puisque là, ce serait un cinquième risque, quel que soit l'âge. Donc, une perte d'autonomie, quel que soit l'âge, parce que là aussi, ça souvent aussi pose des difficultés pour les personnes à partir de 60 ans qui ont des régimes différents. Bon, il y a beaucoup d'enjeux, à mon avis, autour de cette loi et de cette coordination aussi, comme l'a dit Françoise, avec, entre les professionnels et ce qui peut être apporté par les professionnels et ce qui est fait par les familles et comment on peut soutenir les familles en apportant davantage d'aide professionnelle aussi. Mais là, ça pose aussi d'autres questions, je pense que connaissent mieux que d'autres la question de la formation aussi des professionnels, la question de la valorisation de ces métiers, etc. Donc, oui. Voilà, pour moi, c'est ces questions-là aussi qui sont en jeu.
Un complément ou...
Bah, je ne sais pas bien, mais enfin, le risque quand même, c'est qu'on arrive à tellement responsabiliser les individus, tellement compter sur les entourages et responsabiliser les entourages, que finalement, on pense que cette question-là, on peut la régler après d'autres questions qui sont des questions de solidarité publique importantes hein, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, en particulier du fait de la pandémie, mais qui donne à voir quand même les difficultés qu'on avait. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on peut arriver à bâtir une société qui resocialise les risques, c'est-à-dire qui les mutualise? Ou bien est-ce qu'on est dans une société où on est plutôt sur un registre d'assurance personnelle, de garantie individuelle, donc que certains d'entre nous pourront acquérir et d'autres pas, et ceux qui peuvent les acquérir, c'est souvent ceux qui auront moins besoin de faire honorer ces assurances parce qu'ils sont de fait moins exposés au risque, c'est-à-dire ceux qui ont eu des parcours professionnels moins compliqués, qui ont un état de santé plus conservé, donc qui vont vivre moins longtemps en situation de dépendance à l'égard des services d'autrui. Donc là, il y a quand même des paradoxes assez forts. Et moi, je pense que du côté de la fragilité par rapport de l'engagement collectif par rapport à socialiser cette question, en particulier du côté de la vieillesse, au moment où les boomers commencent à être... Enfin, les gens nés après les années 40 sont en train d'arriver en grand nombre jusqu'aux années 63-64. Donc, on est quand même sur les 20-30 ans à venir. On sait qu'il va y avoir quand même, même si les gens sont malades moins longtemps et plus tardivement, etc. Moi, ce que je crains, c'est quand même qu'il y ait une hyper-individualisation de cette question, avec juste des filets minima de protection pour pas que l'expérience soit trop douloureuse, enfin, que quand même on fasse quelque chose, mais qu'on le fasse de manière très minimale, et sinon qu'on demande aux individus, ben, l'idée de la morale sociale qui traîne, c'est quand même en gros, ben, vous avez déjà vécu tout ce temps-là, et donc ça c'est différent après 60 ans et avant 60 ans, vous avez déjà eu la chance quelque part d'arriver jusqu'à ce moment du temps de la vie, ben, avez-vous épargné? Avez-vous pensé à bien vieillir et décaisser, c'est pas le bon mot, mais si vous voulez défamilialiser, si vous voulez acquérir des services publics ou des services marchands, ben vous devez les financer par vous-même. Et donc je crains qu'on ne revienne à un titre de vieux bouquin des années 95, Simone Pennec saura mieux que moi la date, qui s'appelait « Faire ou faire faire ». Et la question c'est, est-ce qu'on aura ou pas la possibilité de faire faire? Ou bien est-ce que certains d'entre nous vont pas se retrouver piégés dans le fait de faire par soi-même, ou peut-être des situations de gens qui vont se retrouver dans l'idée ce qui est déjà le cas aujourd'hui, de renoncer aux soins ou de renoncer à demander du soutien, et dont on va dire après qu'elles ont le syndrome de je ne sais trop quoi, c'est-à-dire on va toujours trouver une étiquette de la nosographie psychiatrique pour dire que, voilà, il y a tout un parcours de vie qui fait tel ou tel type de pathologie. Donc moi, je crois que sur la question du logement, en particulier de l'habitat, on voit bien ce rapport à la propriété privée tout au long du parcours de vie, comment il se retourne contre les individus dans les dernières années de vie, où on voit bien quand même l'idée qu'il faudrait anticiper, il faudrait rendre tout ça accessible, et que la question du maintien à domicile contraint ou choisi, c'est aussi la question de la qualité de cet habitat pour ceux qui y vivent, mais aussi pour les professionnels qui y travaillent. Donc la question, c'est quels vont être les seuils et est-ce que les personnes pourront réellement avoir de la solidarité publique pour faire tout ça, ou est-ce que ça veut dire que ben, les générations qui sont vues, alors qu'elles ne sont pas du tout homogènes, comme ayant été les plus portées par, on va dire, une société de croissance, vont être amenées à sortir le peu d'épargne que certains ont, et donc pour certains une situation très délicate, vu les fins de carrière de certains individus, dont les sortants aujourd'hui du monde du travail de manière extrêmement peu anticipée et violente depuis la crise économique, et que tous ces gens soient amenés à s'appauvrir, ce qui veut dire aussi qu'ils appauvrissent les générations d'en dessous, et qu'on est en train de refabriquer finalement le vivier des gens précaires, et donc c'est quelque part quelque chose qui risque quand même de fissurer beaucoup l'espace social, ou de recréer un modèle finalement de société assez... je ne sais pas comment dire, qui fait revenir des associations caritatives, mais sur un modèle un peu, je ne sais pas comment dire, asymétrique, hein, vous savez, de bienfaisance.
Oui, l'américaine, voilà. Un peu.
Oui.
Oui. Bon, on peut. Il nous reste 25 minutes. Parmi vous, il y a des gens qui sont aidants, aidés. Vous êtes impliqués, je crois, dans un public impliqué. Donc, des questions sur tout dont on a parlé, mais et plus même. Il y en a une là-bas. Alors, faut absolument parler dans le micro, sinon Radio U pourra pas. Donc, un peu de discipline. On n'a pas parlé du... Ouais, mais il y a tellement de choses.
Ouais,
oui, par exemple, on n'a pas parlé de la Covid, ce que ça a fait, etc.
C'est ma question.
Ah, ben, bravo, monsieur. Voilà. Allez-y. Oui, plus précisément.
On avait initialement prévu d'aborder le sujet, mais bon, ces réponses sont très intéressantes. On remplit les minutes de parole et je me demandais si on allait pouvoir aborder cette question. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de la vie quotidienne, simplement, des gens aidés et des aidants?
Ok. Donc là, il y a Hubert qui va répondre. Hubert Stéphane.
Alors, je vais vous donner quelques résultats d'enquêtes qui ont été faites sur le Covid, pendant la période Covid. Ce qui ressort au plan national, c'est que cette période de confinement a mis en exergue tous les défauts de notre société. Tout ce qui n'allait pas dans notre société ont été mis en exergue. Ça c'est partagé, hein. Qu'est-ce qui a été mis en exergue? Le premier point, ce qui a été paru le plus important qui est ressorti, c'est faire les courses. Qui fait les courses? Des personnes qui sont dépendantes. J'ai ressorti aussi une enquête que vous trouvez sur le site de l'Espace éthique Île-de-France, donc qui est fait par l'Espace éthique Île-de-France, France Association Santé et l'ARS Île-de-France. Ils ont fait une enquête pendant la période du Covid. Ils ont eu 812 réponses. Je vous invite à la lire. Sur les aidants, il y a quelques points. Près d'un proche aidant sur deux estime que les besoins n'ont pas été pris en compte. La fermeture des dispositifs d'accueil et de répit et la réduction des services à domicile notamment ont donné à ces proches aidants le sentiment d'être seuls et livrés à eux-mêmes. Voilà pour ce qui est des points les plus importants. Maintenant,
qui fermait aussi.
Je me fais un peu l'interprète aussi de Cyril dans ce cas. Il m'a dit qu'au niveau des hôpitaux, ils avaient aussi des constats. C'est-à-dire que les aidants ont eu des problèmes psychologiques. Ils ont décompressé et ils sont au bout, ils sont au bord de la rupture. Il me rappelle qu'il faut que les professionnels fassent aussi attention, surtout ceux qui reviennent à domicile. Et là, ils ont besoin d'une formation sur le burn-out des aidants. Sachant que le burn-out, ça se traduit au dernier moment par un excès d'activité. Ce n'est pas la dépression, c'est un excès d'activité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de santé qui considèrent ce burn-out comme une dépression. Et ils donnent des médicaments contre la dépression, ce qui ne sert absolument à rien, si ce n'est de détruire la santé des aidants. En plus. Donc il y a besoin de reprendre une formation des professionnels sur l'identification du burn-out et surtout aider les professionnels à le repérer avant qu'il n'arrive, de façon à aider les aidants. Ça, c'est important, c'est ce qui est aussi ressorti de plusieurs études. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps.
Il y a une question là-bas.
Bonjour, Julie Le Fur. Moi, je suis psychologue clinicienne au CLIC sur une cellule d'écoute d'aide aux aidants et également à l'association Parentèle pour le service parentage qui se préoccupe des liens familiaux, du vieillissement et du handicap. Et vous parlez beaucoup de formation. Enfin, bon, je prêche en ma paroisse, hein, mais il me semble aussi que la question du soutien psychologique est éminemment importante. Parce qu'on parlait d'hyper-responsabilité des familles. Donc, du fait de cette hyper-responsabilité-là, les personnes sont quand même aux prises avec une histoire familiale, affective, duquel il me semble important de poser à un moment donné ses valises quelque part pour réfléchir un peu à qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on traverse, quelle place on prend, comment on peut se positionner, comment on peut peut-être faire un pas de côté pour essayer... d'alléger ce qui fait souffrance, en tous les cas.
Je crois qu'il y a surtout à faire attention à ce qu'on regarde. Parce que devant moi, par exemple, j'ai une étude, dont je ne citerai pas la source, qui a été faite pendant le confinement, à laquelle ont répondu plus de 700 personnes. Et les résultats, c'est 80% des personnes aidées ont des difficultés à appliquer le port du masque. 64% des proches aidants ont rencontré des difficultés pour assurer leur rôle d'aidant. 32% ont trouvé des solutions ou des alternatives pour faciliter leur rôle d'aidant pendant le confinement. Aidant à chaque phrase. 90% des proches aidants ont ressenti davantage de complicité avec la personne aidée pendant le confinement. Et à aucun moment, vous voyez bien, on ne sait qui répond à ce type d'études. Et c'est des études qui sont lancées en ligne. Et vous vous doutez bien que les répondants qui trouvent le temps de repérer ces études, d'y répondre, etc. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qui circule sur la Covid. Parce que les enquêtes qui ont été faites parfois sans faire attention à la représentativité des personnes. Là, c'est « je réponds qui veut ». Hein. Donc effectivement, on trouve plutôt des classes moyennes, des professions intermédiaires, plutôt un certain univers social. Et il y a quand même beaucoup à dire sur le fait de savoir qui répond à ces enquêtes, quels sont les indicateurs qu'on collecte et le temps qu'il faut pour analyser ces données. Donc moi, je trouve que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Covid et c'est vrai qu'on a tous des éléments pour répondre qui sont des éléments très personnels ou de nos réseaux de proximité. On voit bien que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été interrompues dans les domiciles. Il y a du coup, le rôle des professionnels dans les domiciles a été majoré pour ceux pour lesquels les enfants ou les conjoints n'étaient pas présents dans le domicile ou ceux qui sont en établissement. Mais ça a quand même été sur un mode où tout famille ou rien famille. C'est-à-dire, on échange avec une tablette en établissement, mais on ne peut plus être en relation aussi ordinaire que ce qu'on était. Ou bien à domicile, on n'est plus du tout présent, mais c'est l'aide à domicile du coup qui s'aperçoit qu'il n'y a pas de course qui rentre, donc qui va alerter le tuteur ou le curateur professionnel qui, lui, ben, n'a pas été non plus tout à fait informé. Là, ça permet de se rendre compte de ce que c'est que l'épaisseur d'un quotidien, je trouve, et de la manière dont on le segmente plutôt que de... Et ça se comprend aussi qu'on le fasse comme ça pour organiser les choses, mais de la nécessité quand même de repenser le sens de tous ces signes ou de cette manière qu'on a d'organiser les choses et d'être assez attentif, je trouve, à une vision enchantée de ce que ça a pu permettre. Hein, la complicité, ben oui, pourquoi pas. Comme quand on nous dit qu'en maison de retraite, les personnes allaient mieux parce qu'elles n'allaient plus en salle à manger. Parce que c'était lourd. Ben oui, mais ça pose la question de c'est quoi la salle à manger aussi dans ces lieux. Et vous voyez bien que si les gens vont mieux parce qu'ils ne vont plus en salle à manger et qu'ils ont de l'animation individualisée, ben oui, mais ont-ils eu tant que ça de minutes d'animation individualisée dans leur chambre? Donc vous voyez bien qu'il y a... Tout dépend comment on construit la question et effectivement, sûr, tout dépend comment on y répond. Et moi, je pense qu'il faut avoir une grande... un souci de rigueur quand on parle. C'est pas parce que c'est des questions qui renvoient aux questions affectives, effectivement, à l'histoire, etc., qu'il faut avoir un récit qui ne tienne pas compte de l'ensemble des dimensions objectivables. Sinon, on s'en sortira jamais et ce travail ne sera jamais vu comme un travail. Ça sera toujours vu comme un appoint, comme quelque chose qui a la malchance de vous arriver, dont on attend, parce qu'on est ambivalent, que ça ne dure quand même pas trop longtemps, mais en même temps, on fait face, etc. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux de qualité de la discussion et des arguments qui sont échangés sur ce sujet. Sinon, on est tout le temps dans des positions misérabilistes ou enchantées, mais sans savoir bien de quoi on parle, il me semble. Et alors, sur la question de la monétarisation, parce que c'est quand même ça qui nous guette aussi, hein, l'idée de monétariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de reconnaître ce qui est déjà le cas dans l'APA, qu'à l'exception des conjoints, tout autre membre de la famille qui fait partie des aidants, au sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, puisse être salarié de l'APA. Ou pour la PCH, de la même façon que les proches puissent être soit salariés, et là encore pas le conjoint, mais le conjoint, vous savez bien qu'il peut avoir une indemnité qui s'élève, je crois, à moins de 4 euros par heure pour ce qu'il fait. Bon, vous voyez bien que là, il y a quand même aussi un peu une méprise, puisque dans les dossiers qu'on travaille avec Muriel Rebourg, on a vu des dossiers dans lesquels, par exemple, un enfant est salarié pour une toute petite partie des heures qu'il fait auprès de son parent qui est en situation relativement complexe et qu'à ce moment-là, le droit au répit, on ne peut pas faire de déclaration d'aidant familial. C'est-à-dire que c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous êtes considéré comme quasi-professionnel, et ça vous enlève le fait que, par ailleurs, vous êtes aussi un fils, une fille, un neveu ou un petit enfant. Donc vous voyez bien qu'il y a des paradoxes, et on se demande quand même pourquoi l'action militante, enfin, dans ce champ du vieillissement ou du handicap, a un peu de mal à exister sur le devant de la scène et à mettre en évidence un certain nombre de paradoxes de ce genre. Donc, comme si on était rattrapé par ce petit salaire qu'on a, par toutes les figures de l'emploi, du statut de salarié, à tel point que pour l'APA, on vous demande le septième jour qui vous remplace. Et donc, vous pouvez mettre effectivement ma sœur, mon frère, tout en sachant, ou le service à domicile, tout en sachant très bien que dans la réalité, c'est vous qui faites les 7 jours sur 7. Donc, il y a quand même une ambiguïté dans la manière de regarder les choses, je crois, qu'il faudrait assumer, quoi, de manière plus collective, quelque part.
Oui, alors vous voulez rajouter, Hubert ?
Je rajoute un détail, parce que c'est anecdotique. L'indemnisation, c'est de 3,62 € par heure. Et c'est à déclarer dans des bénéfices non commerciaux sur la déclaration d'impôt.
Merci à nos invités, Hubert Stéphan, président du Conseil d'orientation de l'EREB, espace de réflexion éthique de Bretagne, à Danielle Émilie, référente UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, à Françoise Leborgne-Huguin, sociologue, professeure des universités, membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS, à l'UBO. Et merci enfin à Muriel Rebourg, juriste, professeure des universités, membre du LABLEX, le laboratoire de droit de l'UBO. Pour poursuivre la réflexion sur les aidants, quelques conseils d'ouvrages. L'entraide familiale, régulation juridique et sociale sous la direction de Françoise Leborgne-Huguin et de Muriel Rebourg, aux presses universitaires de Rennes 2012. Les tutelles, la protection juridique des majeurs, Olivier Molin, édition Berger-Levrault 2020. Et enfin, le père aidant, un nouvel acteur du travail social, Alain Bonamy, ESF éditeur 2019. Dans le prochain numéro du Lab U, nous nous intéresserons à la représentation du pouvoir dans le duché de Bretagne sous la dynastie des Montfort, avec Thibault Lehuédé, doctorant au CRBC, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Retrouvez cette série d'émissions en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.